Mage, écoute.
La montagne.
Yannick, comme tu disais, c'est ton bureau ici?
C'est ça, c'est ça.
Et tes heures de bureau, c'est de quelle heure à quelle heure?
Il n'y a pas d'heure, c'est libre. C'est un bureau formidable.
Notre H1000 vous invite donc à cette carte postale sonore sur les berges de l'Hers, accompagné de Yannick Alram, photographe et cinéaste animalier, qui en 2016 a réalisé le film « Suis ton chemin ».« Suis ton chemin », c'est un film animalier consacré au cingle plongeur, le seul passereau à pouvoir plonger et marcher au fond des cours d'eau. Ce film figure au catalogue de la Ligue pour la protection des oiseaux sur leur site web www.lpo.fr.
Les cinq plongeurs que je suis, c'est assez bizarre parce que là où c'est très calme, où ils sont sauvages, ils vont être sensibles à la présence humaine et très, très capables de partir au moindre mouvement. Et là où il y a du bruit, du monde, du passage, en ville même, ils vont être habitués à ce que les gens passent sans les regarder et ils font souvent à ces endroits-là, des choix de nid. Et donc tu peux aller les observer, et les gens peuvent aller les observer facilement, sans les déranger. Alors qu'on aurait tendance à les chercher dans des coins sauvages. On peut carrément les voir en dessous d'un pont œuvrer, parce qu'ils ont l'habitude que les gens passent préoccupés par leurs idées, leurs rendez-vous, etc. Et c'est un peu le même lieu de territoire que j'ai. Je cherchais à être plus isolé au départ, mais la vie m'a amené à être dans un village avec des gens autour, des voitures pas loin, et quelque part, ça fait un peu comme les cinq. Hein. Je passe plus inaperçu que seul dans la nature, quoi.
Ouais.
Et ça me va bien.
Donc, si je comprends bien, à force d'avoir filmé, tu as passé 5000 heures pour filmer le cingle. Tu t'es identifié un peu à cet oiseau.
Il y a eu une vraie rencontre au départ. J'ai été attiré par lui. Et à force de l'observer, il y a eu un défi un peu assez personnel, celui d'obtenir des images sous l'eau. Et pour arriver à relever ce défi, je me suis fait prendre à l'observer de plus en plus, à avoir à découvrir ses habitudes, donc à m'immerger de plus en plus dans son environnement. Et cette immersion, elle m'a bouleversé plus que j'aurais pu l'imaginer. C'était plus un sujet de documentaire, mais c'était la découverte d'une espèce qui, par ses particularités, m'a mené plus loin à l'étudier, à l'écouter, et à noter ses habitudes.
Et justement, qu'est-ce qui t'a bouleversé à ce point?
Je ne saurais pas dire, Ya. C'est pas descriptible, c'est comme une rencontre amoureuse. C'est un état de fait, en fait. Ça m'est tombé dessus, c'est venu petit à petit. C'est pour ça que, pour moi, quand on me pose la question pourquoi continuer sur cette espèce, c'est parce que je pense qu'on peut dévoiler les subtilités comme chez une personne que parce qu'on l'aime et qu'on consacre sa vie. Et qu'on donne du temps. Et pas un sujet de reportage qui va être bouclé en 200 heures ou 1000 heures et on passe à un autre animal parce qu'on a des données, qu'on a des repérages et qu'on veut traiter un sujet. Cette espèce au fur et à mesure que je la filmais, et j'étais pas trop habitué à voir des départs du nid, et j'ai été confronté à un départ alors que je mettais des caméras un peu plus loin, et j'ai cru avoir déclenché ce départ en fait. Et je suis rentré à la maison et j'ai dit à Claudia, si je ne retrouve pas l'intégralité de la nichée dans le torrent, malgré les images sous l'eau, j'arrête le film. Je n'utiliserai pas une autre famille pour boucler le documentaire. Et donc, ne les trouvant pas, j'ai fait comme si c'était mes petits. J'ai laissé mes caméras et je les ai cherchés avec l'envie profonde de les trouver pour qu'il ne leur soit rien arrivé par ma présence, si c'était le cas. Mmh. Et d'un coup, après une semaine de recherche qui n'avait rien donné, j'ai marché, j'ai tourné ma tête et j'ai vu le premier. Et c'est incroyable à dire, mais j'ai continué sur 200 mètres, je me suis arrêté, j'ai tourné ma tête et j'ai trouvé comme ça les quatre petits qui étaient au torrent. Et le documentaire a pu continuer.
D'accord. Mais il faut préciser, puisque tu as vécu, si je comprends bien, des heures en harmonie avec cet oiseau, quel est le mode de vie de cet oiseau? Quelle est sa particularité?
C'est un oiseau qui est complètement inféodé au cours d'eau. Il est lié aux larves aquatiques qu'ils consomment, qui elles-mêmes sont liées à une qualité d'eau. Ce qui fait qu'il devient bio-indicateur de son milieu parce qu'il consomme des larves très sensibles aux variations de pH ou à la pollution. Et c'est ce qui a élargi encore plus la rencontre pour moi, qui m'a fait étudier l'eau et l'état de l'eau sur notre planète, et aussi qui m'a touché quant à la façon dont on gérait nos ressources. Mmh. Parce que quelque part, je voyais de plus en plus son habitat et je constatais que je le filmais sur des déchets au torrent, qu'il était dérangé par des pêcheurs ou des promeneurs ou même des personnes comme moi, et surtout comme des personnes comme moi qui ne prendront pas conscience qu'en voulant le filmer, ils vont trop faire de pression sur le nid.
Et justement, en parlant de ce repositionnement, est-ce que tu as réfléchi à ton rapport, ou au rapport plus généralement, entre l'homme et la nature? Parce qu'il semble pour toi qu'on a coupé le lien entre l'homme et la nature? Et est-ce que ça t'a permis aussi de prendre conscience un peu de la question environnementale?
Disons que pour moi, à des degrés différents, on est endormi face à ce lien. Pas coupé, mais endormi. Et j'ai découvert à quel point, tout en semblant m'être éveillé jeune à la nature par mon rapport à la montagne et mon père et ma mère qui vivaient, et mes grands-parents aussi en plein cœur de la nature et qui m'ont sensibilisé à ça, j'avais un degré d'éveil à certaines nuances. Mais l'immobilité, qui chez moi était plutôt à la fin du mouvement, quoi, par la fatigue, L'immobilité consentie pour suivre cette espèce m'a ouvert à un univers extraordinaire, en fait. Où quand j'arrivais devant un torrent de montagne avant, c'était pour me tremper les pieds. Je n'avais pas découvert à quel point une heure assis au même endroit permettait à la vie du torrent de reprendre son cours et en plus semblait m'entourer. Je partais avant avec mon matériel, par exemple, pour photographier. Maintenant, je pars sans mon matériel pour rencontrer. Je m'arrête, je m'assieds et j'observe aux jumelles à distance. Et je vois ce que ça va m'inspirer. Ils m'ont imprégné, en fait. Mon rapport à l'animal s'est approfondi, je trouve, parce qu'ils m'ont permis de m'arrêter, en fait. Leur mouvement m'a donné une assise, dans ma vie comme dans mon métier. Il n'y a pas de différence, de toute façon. Et c'est assez surprenant, parce que c'est agréable.
Oui, tout à fait.
C'est agréable, c'est une sensation de... C'est comme s'ils m'avaient... Que leur harmonie, par le nombre d'heures, avait rejailli en gouttelettes sur moi et je m'en étais délecté, quoi. J'essaye, quand je fais le montage, de la restituer. Je suis fidèle à ça. Pas à ce que les gens vont recevoir, parce que je ne peux pas. Ils le recevront de la façon dont ils sont. Mais je reste fidèle à l'émotion ressentie. Et c'est pour ça que je peux des fois passer un mois sur 3 minutes et ne pas la garder pour le film. D'accord. Parce que je m'éloigne et en fait je tâtonne pour retrouver cette sensation. Ça me donne le sentiment d'avoir été fidèle à ce qu'ils m'ont donné.
Et à propos du film, en fait, où on peut le trouver, où peut-on l'acheter?
Le plus simple, c'est mon site, en fait, parce qu'on est en vente directe, je le distribue. Mais il y a aussi des achats soutien pour la LPO, où il y aura un reversement pour eux, ou la Fédération française de la protection animale, ou d'autres sites qui ont une action envers la nature et à qui on a voulu élargir, et puis qui nous aident aussi à élargir l'audience, en fait.
L'audience, c'est la découverte de cet oiseau quand même phénoménal, parce qu'il faut préciser aux auditeurs qui ne le savent pas, qu'en fait, c'est un passereau, l'un des rares passereaux.
Le seul,
à plonger dans les rivières, voire dans les torrents, et à marcher au fond de l'eau pour trouver sa nourriture.
C'est ça.
Il vole dans l'eau, quoi.
C'est ça, carrément. Et c'est vraiment le bon terme que tu emploies, parce qu'en fait, il utilise ses ailes quand il est dans un cours d'eau plus vif que ses pattes ne permettraient l'accroche, ou qu'il y a trop d'eau pour que ses pattes accrochent au rocher. Il nage littéralement, on le voit dans le film, et j'ai pu le filmer encore dernièrement, avec ses ailes, il brasse l'eau, et il a d'ailleurs une morphologie totalement adaptée à ce mode de vie qu'il a. Alors, c'est ça, dans le film, ça me fait sourire, mais il a dû faire un premier plongeon il y a 4 millions d'années. Alors ce premier plongeon, en fait, c'est un peu l'image qu'il m'a fait faire à moi, et que j'ai espéré qu'il puisse faire dans le lien que l'humanité tisse avec l'eau. C'est qu'il s'est lié à cet élément de manière irréversible, et nous y sommes liés, mais sans en avoir conscience, et on n'en prend pas soin, en fait. Donc ça m'oblige à abandonner certains fonctionnements de peur économique, par exemple, pour pouvoir, comme eux, travailler tous les jours, sans avoir l'impression de travailler. Puisque je ne pense pas qu'une buse sur son perchoir se dise « demain je ne bosse pas ». Elle est bien, elle est en harmonie. Ils m'ont offert ça, mais j'ai eu à abandonner les craintes économiques et aussi le formatage que m'auraient obligé ces craintes économiques. Et petit à petit, j'essaye de rendre un témoignage authentique de leur mode de vie en espérant toucher les cœurs. Parce que dans la protection animale, il y a des choses qui me révoltent. C'est qu'on montre des images sanguinolentes, comme si pour protéger, on devait choquer les plus sensibles. alors que c'est déjà les plus sensibles qui sont choqués. Et je pense que l'harmonie et la beauté peut toucher des cœurs. Mais quand on montre des images d'animaux maltraités, ça me choque profondément, en fait. Parce que c'est comme si on montrait un bébé maltraité pour qu'on puisse avoir la conscience de ne pas maltraiter les bébés. On n'a pas besoin de ça. Et certains font de l'argent avec ça.
Are there animals like peace and animals like war?
Are there animals that are like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Are there animals that like peace and animals that like war?
Je pense qu'on a une course au sensationnel qui ne montre plus au bout d'un moment l'harmonie des animaux qu'on filme, mais c'est devenu un business parfois.
Donc si je comprends bien, à l'instar de L214 qui enquête dans les abattoirs, toi tu serais plutôt partie des gens qui montreraient la beauté des animaux dans les prés, si je peux résumer ainsi, oui, plutôt que de montrer ces modes d'abattage.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les dénoncer, les poursuivre, mais il faut les montrer aux autorités qui peuvent agir. Mais il est dangereux de choquer des jeunes personnes, y compris des enfants, par des images publiques, alors qu'ils n'ont pas à charge la gestion de notre monde. C'est à nous de nous réorganiser. Comme disait Gandhi, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on va faire de l'audience sur des images ensanglantées qu'on va changer les choses réellement. Je pense qu'il faut que les gens... Parce que, en fait, ceux qui aiment le sang, ils se régalent avec ça. C'est ceux qui déjà ont une action paisible avec la nature qui sont choqués. Alors c'est quoi le but? Ça ne veut pas dire que le mien est plus honorable, en fait, mais... Je ne peux pas valider ça. Pour moi, la fin de vie d'un animal doit être respectée dans les images aussi. Il m'arrive d'en croiser et j'en ai même mis en image sans qu'on voit leur fin pour honorer leur vie, notamment un jet que j'ai filmé alors qu'il n'a pas survécu, mais j'ai montré ces derniers instants qui étaient paisibles pour qu'il puisse passer son message par sa beauté. Mais je pense que les gens sont conscients qu'il faut changer. Par contre, on devrait avoir plus de pudeur quant à la fin de vie d'un animal et on ne doit pas l'utiliser à des fins commerciales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un jour montrer quelques scènes, mais je pense qu'on en fait trop, pour peu d'action en fait.
Est-ce que le fait de te rapprocher de l'animal et de la nature fait que tu as modifié ta consommation personnelle de viande?
Alors c'est une question difficile parce que j'ai été abstinent et j'ai été consommateur et j'ai repris ma consommation par exemple de viande quand j'ai eu mon fils pour pas imprégner chez lui quelque chose de négatif, parce que quand je regarde la nature, la fin de vie des animaux, elle est aidée par la consommation des prédateurs. Ils ne s'abstiennent pas, mais ce n'est pas de la barbarie.
Oui, mais voilà, moi, quand je dis consommation de viande, il est évident qu'aujourd'hui, les modes de distribution de consommation, pour moi, c'est de la barbarie, quoi.
Mais oui. Et puis on jette 30%, et donc aujourd'hui, je suis entre les deux, en fait. Je suis allé dans l'abstinence, et je l'ai défendu à ma manière. Et aujourd'hui, c'est plus ce que m'ont montré les animaux qui me positionne. C'est consommer différemment, pas industriellement, et même avoir peut-être des moments où on n'en a pas besoin. Donc, mais je ne suis pas abstinent.
Mais lorsque tu restes 4 ou 5 heures en planque, si je comprends bien, de 4 heures du matin à 7, 8 heures, jusqu'à midi même, et que parfois tu n'as même pas une image à filmer, quoi, est-ce que ça ne provoque pas de l'ennui, de la lassitude?
En fait, j'ai... Non, carrément pas, ça m'ouvre d'autres sens. J'écoute, j'observe, je vois des nuances, et je dors des fois. Mal, comme eux, sur une branche. En fait, je peux pas m'allonger, mais des fois, je m'assoupis, c'est le son qui me réveille, je vis avec eux. En fait, c'est ça, le privilège. Parce que tu parlais de décroissance, mais pour moi, c'est carrément ça, mais c'est presque un terme qu'on donne aux gens aujourd'hui, alors qu'en fait, le bonheur réel tel que moi je l'ai expérimenté, il est sans avoir. C'est vraiment dans la nature ou au contact de la nature que j'ai trouvé mon équilibre et mon bonheur. Donc pour moi, c'est même pas de l'ordre de la décroissance, c'est de l'ordre de l'évidence. Sauf qu'en fait, les gens s'étant identifiés à une image, y compris d'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à rentrer dans un rythme naturel. Ils sont pris par un mouvement, une spirale, qui leur fait rater ce bonheur. Et sinon, les milliardaires ne se suicideraient pas, quoi. c'est ça.
Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui t'a marqué dans ta quête, dans ta quête de ce film vers cet oiseau, envers cet oiseau ?
Il y a beaucoup de choses en fait. Je pense que ce qui m'a bouleversé et qui correspond à ma vision de la nature, mais qui s'est approfondi, c'est vraiment la dimension familiale. Cette dimension familiale, elle est héroïque en fait. Et on voit dans nos sociétés des comédiens qui sont d'ailleurs admirés de tous et qui apprennent à jouer la comédie. Et là, on a au contraire des acteurs qui sont complètement naturels, qui vivent dans un environnement qui est hostile, difficile. Il y a 65% des juveniles, des cinq plongeurs qui ne passeront pas le cap de la première année. C'est très difficile pour les parents parfois de les nourrir. Avec les conditions climatiques, et je trouve assez admirable cette dimension familiale. Quand ils construisent le nid, c'est pour leurs enfants, c'est pas pour habiter, ils dorment à côté, quoi. Et ils sont rudes en fait, pour des 75 grammes maximum, ils plongent dans l'eau gelée, ils passent de la glace à l'eau gelée, ils plongent 1600 fois par jour, et ils sont complètement liés à l'environnement et à ces modifications, dont le changement climatique et les actions anthropiques sur les cours d'eau les mettent en difficulté. Ce qui me touche, c'est qu'ils viennent nous signaler qu'ils ont besoin d'une certaine qualité d'eau. Et ce que nous posons comme acte au niveau des berges, de la gestion de nos cours d'eau, du gaspillage et de la pollution de nos cours d'eau, on a du mal à percevoir que ça nous revient à nous et que c'est l'homme qui est en question là-dedans. Et quand on parlait tout à l'heure de la protection de la nature, on a surconsommé, on est tous responsables de ça, on a surconsommé au détriment des générations à venir, en fait. Est-ce qu'il est raisonnable de continuer à consommer plus qu'il nous faut, sachant que nous allons dépouiller les ressources de nos générations à venir, ce que fait aucun animal qui va même se priver pour ses petits? Et en fait, l'homme aujourd'hui part en quête de sauver la planète, alors que je pense que vraiment, c'est la question de la survie de l'homme qui est centrale. Chacun doit prendre à bras le corps cette question, parce que sinon, ça ne sert à rien d'acheter le dernier jouet à ses enfants par amour et d'aller travailler des heures, si ça contribue à détruire la terre que l'on va laisser à nos petits-enfants. Où est le sens ? Et alors on dit aux gens, en fait, il faut changer si vous voulez que la planète ne périsse pas, mais elle ne périra pas, en fait. C'est l'homme qui est en balance. Parce que lorsque les espèces végétales, les micro-organismes se seront adaptés à tout ce qui nous avons balancé dans la nature,
on ne survivra pas. Un arbre peut changer de génome, une espèce peut changer de lieu, mais on verra des mouvements de population forcément quand il n'y aura plus d'eau à certains endroits. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester pendant 10 ans sous la douche, comme 1800 enfants qui meurent de manque d'accès à l'eau potable en Afrique chaque jour. Et moi, aujourd'hui, mon fils, qu'est-ce que je ferais s'il était dans cette situation-là? Et à côté de ça, à Sydney, 1000 litres par habitant. Donc en fait, la démesure nous conduit à une vraie question de survie. Et si les gens le voient comme ça, peut-être qu'ils agiront différemment.
Ouais, mais si on était un peu provocateur, on pourrait dire que les pays riches, justement, veulent survivre, mais qu'ils n'en ont rien à foutre de la planète. Peut-être qu'il y a ça aussi.
Carrément. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert dans mon manque de liberté, puisque j'étais en quête constante de liberté, et de mes départs en montagne, je mettais la liberté en avant. Et d'ailleurs, quand j'allais voir des amis, je disais, ceci est un espace de liberté, jusqu'au jour où je ne l'ai plus dit, quand j'ai découvert qu'en fait, c'était ma dépendance au système qui le rendait nocif. Et c'est de cette dépendance dont il a fallu me sevrer. Qu'en fait, il me portait à trouver un équilibre au milieu de ce chaos, alors que l'équilibre, il suffit de s'asseoir dans la nature. On n'a pas besoin d'être riche pour le trouver. En fait, c'est celui qui a la simplicité d'être capable de se mettre en situation de le recevoir qui reçoit cet équilibre. C'est pour ça qu'un enfant dans un bidonville peut être en harmonie et qu'un bonhomme qui arrive avec une grande bagnole et qui pourtant a peut-être une conduite de vie qui est déplorable avec même des agissements qui pourraient faire peur à tout le monde si on le savait. En fait, on va idolâtrer le brillant comme si un canard aujourd'hui arrivait en plein milieu de la mare avec des bagouses et des colliers et que les autres le regardent comme ça en lui disant « Mais comment tu vas arriver à fouiller la vase pour trouver à manger sans te noyer ?» Il faut descendre d'un train qui n'amènera pas nos enfants à destination. C'est même plus question de nous, ni de l'environnement qu'on connaît. Alors c'est sûr qu'à travers ces oiseaux, c'est juste envie de balancer aux gens qu'en fait, eux, c'est les héros de notre monde moderne. Parce que depuis 4 millions d'années, ils restent fidèles à un rythme de vie qui est respectueux de leur environnement. Et un jour, un homme a dit, je ne sais pas qui d'ailleurs, j'essayerai de mourir sans laisser de traces. C'est l'opposé de ce qu'on fait en tant qu'être humain. Mais les animaux partent sans laisser de traces, mais sans laisser non plus d'empreintes négatives. Ils participent à l'environnement dans lequel ils vivent. Et nous, en fait, on les consomme. Et on n'est pas capable de s'arrêter devant un documentaire tranquille qui va parler de leur vie, parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire extraordinaire où ils deviennent les héros modernes. C'est des héros. Et quand on les côtoie, on en tombe amoureux et on espère qu'une chose, c'est que nos enfants entendront encore leur chant, verront leur courage et pourront goûter à leur harmonie.
Alors je suis tout à fait bluffé par ce plaidoyer à l'animal, bien évidemment sur ce passereau, le cingle plongeur. Moi je trouve que c'est une belle conclusion. Allez voir donc ce film de Yannick Alram et donc le site pour se le procurer.
Oui, c'est www.film.nature.com ou sur le site de la LPO ou de la Fédération Française de la Protection Animale.
H1000.
Bonne semaine.